même aujourd'hui, en cette période de Noël, on vous accompagne dans Esprit Sport, une 18e émission qui va nous plonger dans nos souvenirs, bons ou moins bons, qui sait, on le verra au fil de cette émission que nous allons passer ensemble. On va retrouver évidemment toute l'équipe d'Esprit Sport avec ses souvenirs. Dans quelques minutes, nous retrouvons Erwan, qui est avec nous, fan de petites équipes, aussi Corinne Saint-Félix, que vous entendez dans le flash à chaque émission. Et bien là, cette fois-ci, nous ne la retrouverons pas dans le flash, on la retrouvera dans son souvenir à elle. Et elle sera avec nous en fin d'émission. Aussi présent avec nous, Coraline, qui va évidemment nous parler de la section paloise. On va retrouver Corentin pour son coup de cœur, son événement qui l'a marqué, même quand il était tout petit. Et Anne-Françoise Marie nous replongera dans l'épopée, non pas des verts, mais des jaunes.
Des jaunes et verts.
Des jaunes et verts, voilà, on la retrouvera, vous l'avez entendu, dans quelques minutes. Mais tout de suite, attention, présentation et jingle à l'américaine, vous le savez, on commence tout de suite par la boîte à souvenirs d'Anne-Françoise et on ouvre tout de suite cette boîte à souvenirs.
La boîte à souvenirs d'Anne-Françoise.
Vous avez vu, ça a même fait des petits jingles comme ça. Alors, on est à l'aise dans cette émission. Certains ont passé les fêtes bien dodues. Hein. On a bien mangé pendant les fêtes.
Ah, c'était trop bon.
C'était trop bon. Et Anne-Françoise, du coup, il était une fois.
Il était une fois un temps que les temps de que des moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'ailleurs, personne autour de cette table.
Ça, c'est votre running gag de l'année.
Eh c'est ben oui, mais passé bon, c'est 97. Comme ça. Écoutez, c'est la maturité. C'est comme ça. Moi, je vais vous parler de l'année 94-95 et je vais vous parler de foot. Alors, moi, je suis originaire de la région nantaise. Et autant vous dire que ces années-là, eh ben, on était bien. Parce que ces années-là, le FCNA a performé au top du championnat de France. Donc ça, c'est l'époque Jean-Claude Suodo, Patrice Loco, Nicolas Wedek, Christian Carambeu, Jafet Endoram, Nicolas Pedros. 94-95, c'est 32 matchs sans défaite. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur entraîneur. Un nombre de buts marqués complètement incroyable. C'est l'époque où on appelle... ils mettaient souvent 3-0, 3-1 et ça ils appelaient ça le tarif maison, donc en fait c'est le truc un peu traditionnel, on mettait 3 buts à tout le monde, c'était génial. On avait vraiment une équipe incroyable et en fait cette équipe elle naît à un moment où en fait le FCNA pour des raisons financières a frôlé la relégation en fait quelques années plus tôt et donc et ben ils avaient plus un copec les gars, donc ils ont été obligés
de l'expression copec
plus un copec ils ont été obligés d'aller chercher des joueurs des jeunes au centre de formation et donc et ben voilà ils les ont formés et donc ils avaient cet entraîneur incroyable Jean-Claude Suodo qui avait des méthodes assez originales qui par exemple les faisait s'entraîner dans le sable. Donc en fait, il les faisait jouer pieds nus.
Comme l'entraîneur de la semaine dernière, notre lutteur sur sable.
Exactement. Et ben exactement. Et en fait, il faut imaginer qu'ils étaient sur... Alors c'est pas un terrain de foot, hein, c'était un truc beaucoup plus petit. Mais du coup, comme le ballon de foot pouvait pas vraiment tomber par terre, parce que sinon, dans le sable, à mon avis, ça faisait des trucs un petit peu inopiné. Donc du coup, ils apprenaient à jouer vraiment à une touche de balle. Ils étaient dans un petit espace, donc en fait, ils apprenaient à se trouver très facilement. Et l'entraîneur Jean-Claude Suodo, du coup, les faisait répéter les mêmes gestes aussi pour se trouver facilement. Et sur le terrain, ça se voyait vraiment. Moi, je me souviens très très bien d'un but incroyable contre le PSG. Je crois que c'est la première partie du championnat de 94-95, où en fait, il y a une touche qui est faite à... Moi, je ne saurais pas dire, je suis un peu nul en distance, mais enfin bon, à peu près...
Puis ça remonte aux années 90, et si vous n'avez pas les distances, on ne va pas vous en vouloir.
Voilà, bon bref, ils sont à peu près, je dirais bien, aux 40 mètres, mais bon, ça c'est plutôt en rugby. Et en fait, ils font cette touche, et après, le ballon ne va plus toucher le sol jusqu'à arriver dans les cages, en fait. Il se passe des trucs de dingue entre Loco, Pedros, enfin voilà, c'est vraiment une vidéo qu'il faut revoir.
Pedros, vous nous rappelez son prénom ?
Reynald.
Oui, vous avez dit Nicolas tout à l'heure.
J'ai dit Nicolas,
oui.
Pardon.
Comme quoi, on n'est pas forcément né dans les années 92 et on peut quand même connaître le prénom de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine.
C'est ça.
Féminine ou des jeunes ? Corentin ? Vous savez, on n'est pas des DVD.
Ronald Pedros, c'est surtout l'entraîneur qui a fait le triplé avec l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions féminine.
Voilà.
Féminine.
Qui n'a aucun rapport avec l'équipe de France féminine, du coup.
Qui aurait bien aimé avoir la place de Corinne Diacre, mais qu'il n'a pas eu.
Mais qu'il n'a pas eu. Eh bien, tant pis pour lui. En tout cas, ce qu'il a vécu, c'est une belle épopée avec les Nantais.
Ouais, c'était incroyable.
Il y avait Claude Makélélé aussi à l'époque.
Il y avait Claude Makélélé, il y avait Christian Carambeu.
Il était très jeune. Il y avait. J'allais dire Pires, mais pas du tout.
Non.
Non, Pires, c'était à Metz.
Ouais. Et en fait, et venait de sortir de Nantes, Marcel Desailly et Didier Deschamps, si je ne me trompe pas.
Oui, je crois qu'ils ont ils ont bien marché après, non?
Oui, ils ont fait quelques petits trucs. Bah après, il y en a qui ont bien marché aussi. Tu vois, par exemple, Patrice Loco, il est parti à Paris. Bon, bah, on le connaît plus pour ses frasques avec les policières que sur le terrain, quoi.
Oui, il y avait quand même des noms qu'on connaît bien et qu'on connaît.
Il y a Mickaël Landreau aussi. Qui était dans cette équipe-là aussi, qui était troisième gardien.
Ah, il était très jeune.
Ouais, ouais il était
très jeune. Ça... Landreau, Loco, Makélélé, Desailly, Deschamps, Pedros. Ouais, il y a quand même une belle... Ils n'auraient pas fait cette épopée de 32 matchs sans défaite.
S'il y avait eu que des chèvres, on est d'accord. Mais, Et donc moi, pourquoi
on
est-ce
embrasse
que
tous ceux qui ne les ont pas fait, du coup, c'est 32 matchs sans victoire.
Hein. Bah, d'ailleurs, ça n'a jamais été égalé depuis. Hein.
Le record tient toujours
de 32 matchs. Et d'ailleurs, il y a eu un documentaire qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Record inégalé. Et qui justement interview quelques joueurs de cette équipe.
Une sorte de boîte à souvenirs.
Une espèce de boîte à souvenirs. Alors moi, je vous en parle de ce souvenir. Pourquoi ? Parce que c'est mon premier souvenir vraiment d'intérêt pour le sport. À ce moment-là, moi, je me souviens, on recevait Ouest France tous les lundis matins, il y avait le carnet sport. Je découpais les petits comptes rendus des matchs. Je découpais le petit classement. Hop, je les classais dans un petit classeur. Je mettais ça sur des feuilles et tout. J'étais hyper appliquée. J'ai même acheté le livre de la saison que j'ai été faire dédicacer aux joueurs.
Ah oui, une vraie star.
Ah,
bah
oui.
Vraie...
Ah oui, non, mais totalement. Mes parents m'ont emmené à la Beaujoire. Limite, c'était le plus beau jour de ma vie. Enfin, c'était.
C'est pour ça, quand on parle de quand pour préparer cette émission, on a dit il faut là tout de suite un souvenir que vous avez en tête qui vous a marqué. Vous m'avez dit ah moi je sais. J'avais le calendrier Panini, enfin pas Panini.
Ouais, mais c'est genre ça, ouais.
Celui qu'on retrouve 20 ans après, on se dit, mais j'ai fait ça, moi.
Je sais même pas où il est.
Ah, vous savez plus où il est?
Non.
S'il faut maintenant, vous allez peut-être retrouver les dédicaces de Loco.
Je pense que comme dédicace, j'avais déjà fait Endoram, Makélélé. Pedro, je l'avais pas, de toute façon, lui, il aimait pas les dédicaces, il aimait pas les gens. Donc,
on l'embrasse, évidemment.
Voilà, est-ce que vous savez qu'il y a un des gardiens de l'équipe de Nantes de cette année-là qui est originaire de Muret, Dominique Casagrande.
En région toulousaine.
Et bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'année d'avant, il n'était même pas pro. Il est arrivé là, il ne sait pas trop comment. Et en fait, il a fait deux années incroyables avec Nantes dans ces années-là.
Le genre de choses qu'on fait qu'une fois dans une vie.
Ouais, je pense, ouais.
Et il n'a pas refait derrière.
Non, clairement pas.
Donc ça, c'était votre souvenir. On a voyagé dans la France, puisqu'on est reparti du côté de l'Atlantique. Merci beaucoup, Anne-Françoise.
Avec plaisir.
C'était soit ça, soit quoi, comme deuxième souvenir.
Qu'est-ce que ça aurait pu être?
Bon ou mauvais, hein.
Moi, j'aime bien tout ce qui est JO. Vous voyez, moi, j'aime bien passer...
JO équestre.
Ouais, alors JO équestre, on le voit souvent pas trop, mais moi, j'aime bien regarder les JO à la télé. Et je pense que, vous voyez, la victoire sur 400 mètres de Marie-Josée Pérec, ça m'a marqué, par exemple. C'était à peu près la même époque, mais...
belle période.
Ah ouais, c'était incroyable. Non, il y avait une belle... Bon, il faut dire aussi que mes parents avaient la VHS souvenir de ce truc-là et que je l'ai regardé plusieurs fois. Donc du coup, ça s'est un peu plus imprimé, je pense.
Une cassette, pour tous ceux qui ne voient pas ce que c'est...
Ouais, alors c'est comme un DVD, mais plus gros, avec une bande.
C'est ça. Il fallait mettre le stylo, le crayon en papier pour rembobiner.
Non,
qu'il faut rembobiner quand on veut revoir.
Non, parce que les cassettes vidéo, les gars, c'était beaucoup plus gros que ça. On pouvait pas rembobiner avec un crayon.
Oh, bah écoutez, on aura fait un point dans le passé aussi avec ce souvenir. Merci beaucoup, Anne-Françoise.
Avec plaisir.
Moi, je vous propose d'ouvrir la boîte à souvenirs de Corentin.
La boîte à souvenirs de Corentin.
Corentin, vous, votre boîte à souvenirs, est-ce qu'elle nous amène en 92?
Elle nous amène pas en 92, elle nous amène quelques années en arrière, mais pas en 92 en tout cas.
Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans votre événement, votre souvenir sportif dans cette boîte? Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre souvenir?
On retrouve du foot, J'ai moins de 10 ans, on retrouve la Coupe du Monde et une très très belle équipe de France. On va parler de France-Espagne en 2006, huitième de finale de Coupe du Monde.
Vas-y mon petit bonhomme.
Exactement.
Donnez-nous
il est génial ce moment. Ouais, c'est un sacré
le contexte,
souvenir.
Vous êtes où? Vous faites quoi? Vous êtes avec qui?
Alors,
c'est sa marque généralement ces choses-là.
Moi je l'écoute à la radio pour tout j'ai 8 ans. Donc j'ai 8 ans, j'habite dans un petit village dans l'Aveyron et pour l'occasion de la Coupe du Monde, mon père qui travaille dans une HEDF, on habite tous à côté les uns des autres. Et donc pour les matchs de Coupe du Monde, on décide de projeter les rencontres. Alors à partir des huitièmes de finale, parce que la phase de poule n'était pas fameuse non plus pour cette Coupe du Monde 2006. Et donc je pense que c'est là mon premier vrai souvenir marquant de sport, ce qui fait que j'aime le foot aujourd'hui vraiment. Un match avec des anecdotes, avec des émotions. J'aurais aimé au pire parler de la Coupe du Monde 2006 en général, mais vraiment je pense que ce match-là c'est ce qui
non,
m'a...
Non, la fin elle était pas terrible.
La fin était pas terrible.
Spoiler alerte, la fin elle est nulle.
La Coupe du Monde était incroyable avec le France-Brésil, France-Portugal, même la finale, la dramaturgie est exceptionnelle, mais vraiment ce France-Espagne, je pense que c'est... ouais, c'est vraiment le moteur de ce qui fait que j'aime le foot aujourd'hui. Parce que l'année 2006 en foot, elle est quand même assez, assez intéressante avec la finale aussi Arsenal-Barcelone avec déjà Thierry Henry qui perd une finale en 2006. Donc ouais, vraiment, il y a plein de petites choses comme ça qui sont enchevêtrées pour faire ce souvenir-là compte énormément pour moi. Donc je pense que beaucoup se rappellent quand même de ce match avec l'ouverture du score assez précoce des Espagnols qui commencent à nous dominer, qui dans la semaine passée ont quand même un peu chambré ou ont commencé à dire qu'ils allaient célébrer le jubilé de Zinedine Zidane.
Ça s'est très bien passé pour eux, mais après la Coupe du Monde.
Ça s'est très bien passé pour eux deux ans plus tard. Mais c'est vrai qu'ils sont venus sur le terrain avec une certaine arrogance. Il y a le contexte aussi autour de Luis Aragonés qui était un sélectionneur qui a pu avoir des mots concernant les joueurs de couleur qui ont été très durs. On a vu des altercations entre lui et Patrick Vieira sur le terrain. Voilà, on va pas citer ce qui a pu être dit et entendu à l'entraînement, mais ce match-là, moi, il m'a marqué notamment par le but de Patrick Vieira, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément attentif devant les matchs de foot. Donc le but est, je crois, vers la 60e, un truc comme ça, et vers la 60e, je vais voir ma mère, je dis bon, je m'ennuie, et ma mère elle me dit non, attends,
c'est pas fini.
Regarde le but. Oh c'est pas,
ah oui,
c'est pas fini.
C'est
non, non, attends, regarde le but. Ma mère, boule de cristal, je sais pas. Le coup franc de Zizou.
C'est un souvenir familial en plus.
C'est un souvenir familial. Je pense que ma mère ne s'en rappelle pas.
On a beaucoup, pas marqué.
On a beaucoup
c'est pour
de
ça qu'on a pas invité
plus
ce soir.
Entre elle et moi, il y a des choses beaucoup plus fortes. Mais ce souvenir-là, moi, je me souviens l'avoir regardé avec des billes énormes et dire. Mais comment elle a fait pour savoir qu'elle avait... Surtout que le but, fallait le sentir parce qu'il y a un petit cafouillage et derrière, Patrick Vieira récupère le ballon pour marquer. S'en finira après avec le déroulé là, de Zidane pour faire le 3-1. Ouais, c'est le souvenir qui m'a le plus marqué.
Le but de Franck Ribéry avec ce commentaire de Thierry Gilardi qui fait partie des top 3 de plus beaux commentaires sportifs clairement français à la télé.
Ah oui, c'est sûr.
Vas-y, mon petit bonhomme.
Vas-y, mon petit bonhomme.
Il était tout jeune en plus, Franck Ribéry.
C'était
il commençait sa carrière.
Monde, ouais. C'est ça.
Il était vraiment.
La célébration où il fait l'avion pour
aller
sauter
sur
le.
Il est perdu et d'un coup il va vers le banc.
C'est ça. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant avec ce match-là et même la Coupe du Monde, c'est que très vite il y a eu un reportage aussi qui a été fait, rendez-vous le 9 juillet, où les joueurs parlent un petit peu du match, etc. Je trouve que c'est ça aussi, moi, ça m'a aidé à construire un peu ce souvenir-là. Et puis derrière, on a aussi enchaîné avec un autre événement sportif, la Coupe du Monde de rugby en 2007. Enfin, toujours avec Thierry Gilardi, je pense que le commentateur aussi fait que l'événement est hyper, hyper intéressant. Enfin, moi, c'est ce qui m'a aussi donné
fait
envie derrière.
Fait qu'on a un souvenir de ça.
On garde un souvenir, même c'est... Ouais, voilà, c'est marquant. Et puis quand je dis que ça m'a construit en tant que supporter de foot, même voilà, ça m'a donné envie d'être commentateur plus tard. Donc c'est... Le souvenir, vraiment, le match qui m'a un petit peu lancé.
On a, donc pareil, on a posé la question du doute entre ce match, ce souvenir et un autre. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut-être vous a tiré l'alarme un jour? Alors, l'alarme à l'œil, pas l'alarme...
Ouais, alors tirer l'alarme, j'ai du mal à savoir quand est-ce que j'ai vraiment pleuré pour du sport. Si je dirais France-Portugal en 2016.
2016.
En 2016, ça a été un souvenir très très douloureux. Surtout qu'on avait l'impression d'avoir fait le plus dur, sans forcément sous-estimer les Portugais.
Mais deux ans plus tard, Coupe du Monde.
Oui, et puis de toute façon, je pense que les grands exploits sportifs se construisent aussi sur des défaites. C'est peut-être pour ça que les Français gagneront l'Euro cette année. C'est tout ce qu'on leur souhaite, que la défaite en finale face à l'Argentine ait permis à des jeunes joueurs de mûrir, de mieux appréhender certaines phases du match, dont les tirs au but, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que c'est une loterie. C'est
un entraînement psychologique. Il faut
même
savoir
tirer. Même en 2006, on perd au tir au but. C'est
bien. On a parlé de souvenirs bons ou pas bons. Ouais. La semaine dernière, on a fêté les 1 an de la défaite en Coupe du Monde face à l'Argentine. Là, on retire le pansement et puis ça fait mal, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Corentin, pour ce moment, ce beau moment. Merci, mon petit bonhomme.
Avec plaisir.
Comme l'aurait dit Thierry Gilardi. Tout de suite, regardez, on ouvre la boîte à souvenirs et on retrouve Coraline. Regardez.
La boîte à souvenirs de Coraline.
Vous aussi, vous avez eu votre petite clochette à la fin de votre jingle, Coraline. Alors, Coraline, il était une fois votre souvenir dans cette boîte à souvenirs. Qu'est-ce que vous tirez de votre chapeau ?
Alors, c'est un peu plus récent que mes deux compères aujourd'hui. Mettez des roulettes à une carapace de tortue direction la terre de naissance de Henri IV pour ma boîte à souvenirs. Oh. En effet, je vous emmène à Pau pour vous parler de la section paloise et de sa remontée en top 14 en 2015. Pour vous parler de cette année 2015, il nous faut remonter un peu dans le temps pour comprendre un peu le contexte. 2006, la section termine 13e de top 14 et se voit donc reléguée en Pro D2. Les premières années, Pau termine régulièrement au milieu de tableau. Une remontée dans l'élite du rugby, il vaut mieux la construire, me direz-vous. 2012, première finale à Bordeaux contre Mont-de-Marsan qu'ils perdent 20-29. L'année suivante, en 2013, Pau bat La Rochelle en demi-finale et décroche son ticket pour la finale de Pro D2 contre Brive. 51 bus remplis en une journée. En tout, ce n'est pas moins de 142 bus pardon, qui s'élanceront du hameau. C'est simple, plus aucun bus n'était disponible jusqu'à Tarbes et même au Pays Basque, plus de bus. Certains qui n'avaient pas pu prendre part à ce déplacement s'étaient placés sur les ponts avec des drapeaux de la section paloise, saluant cette transhumance de bus qui passait devant eux. Je me rappelle d'ailleurs, ce jour-là, mon père et mon frère avaient, eux, fait le déplacement en voiture, qui tomba malheureusement...
Ah oui, plus de bus.
Exactement, qui tomba malheureusement en panne sur la route. Fort heureusement, pour eux, ils n'étaient pas les seuls supporters palois à faire le déplacement avec leur véhicule personnel et ont pu embarquer dans une autre voiture. La défaite fut lourde, 30-10. Pau voit encore son rêve de top 14 lui filer entre les doigts. En 2014, Simon Manix est nommé manager et fera donc équipe avec les entraîneurs déjà présents, Joël Rey et David Ocagne. Ça y est, la construction d'une équipe solide et d'un staff solide aussi est bien lancée. J'y viens à cette saison 2014-2015. Premier match compliqué, Pau se fait peur face au promu Massy et repart de l'Île-de-France sans bonus offensif. Et avec une très courte victoire, 12-14, ça démarre mal. Un léger remontage de bretelles de la part du manager Simon Manix, qui trouvera cette prestation inacceptable selon ses mots. Le week-end suivant, à la maison, les Béarnais infligent une lourde correction à Aurillac, 41-1-3, bonus offensif en poche. Ils se retrouvent alors à la tête du classement de Pro D2, tête du classement qu'ils ne lâcheront pas jusqu'à la fin du championnat. Massy, Aurillac, Agen, Béziers, Dax, Bourgoin, Narbonne, Albi... Aucune de ces 8 équipes ne parvint à faire plier les verts et blancs. Et il signe à l'époque un record de victoires d'affilée. La section rassemble la ferveur des supporters et est de plus en plus présente. Et cette année, c'est la bonne. C'est bien mignon les phases finales, mais ce que veulent les supporters palois, c'est retourner en top 14. Il aura fallu attendre la 9e journée de championnat pour voir la section paloise s'incliner à l'extérieur face à Mont-de-Marsan, 15-6. Seuls Tarbes et Carcassonne viendront s'imposer au stade du Hameau. À domicile, la section fait le plein de points et décroche au total 10 fois le bonus offensif sur les 15 matchs à domicile, soit 2/3 des affrontements quand même. 11 avril 2015, Pau reçoit Montauban, toujours premier de Pro D2. Si la section veut s'assurer d'être champion de France dès cet après-midi-là, il faut gagner avec bonus. N'étant pas à l'époque abonné, je prends une place avec mon père en pelouse derrière les poteaux. En effet, l'Hameau n'avait pas encore fait les travaux pour son nouveau stade. Monter en top 14 était d'ailleurs la condition pour démarrer les travaux. Il fait beau, parfait. C'est bien mieux pour marquer des essais. 17h30, ça y est, le match est lancé. Pragmatique, il faut le bonus, certes, mais il faut avant tout gagner. 8e minute, Marquez marque 3 points. À la 28e minute, Sam Marquez joue rapidement une pénalité à la main, donne le ballon à Acebes, qui réussit à percer le rideau défensif, passe le ballon à Vounibaka, qui n'a plus qu'à aller marquer. Mi-temps, 10-0, le travail n'est pas terminé. Le Hameau vibre, le Hameau tremble, ce top 14 qui lui fait tant rêver. Moi, je suis contente, maintenant, les essais palois, ils seront de mon côté où je suis installée. Retour des vestiaires, le palois Boutati marque un essai à la 48e. Mais la minute suivante, Montauban se rebelle et c'est un essai du futur palois, Charlie Malier, qui vient planter un essai. Aïe, un essai d'écart, il en fallait trois. Suite à un plaquage cathédral sur Damien Traille, le 5 Montabanais prend un rouge à 15 contre 14. À domicile, qui plus est, l'ambiance du hameau est chaude à en faire fondre la neige du pic du Midi d'Ossau. Même le pilier gauche se sent pousser des ailes. Ourou termine son sprint de plus de 30 mètres derrière la ligne. Plus qu'un essai à marquer, la section sera championne de Pro D2 et retrouvera après 9 années passées en 2e division l'élite du rugby français. Suite à une pénale touche non trouvée de Montauban, les Palois relancent de leur camp. Et à la 77e minute, Jacques Boitubois fait bondir des sièges tous les supporters, joueurs sortis, staff de leur siège en inscrivant l'essai, qui sera synonyme de bonus offensif. Au coup de sifflet final, les supporters pénètrent sur la pelouse pour saluer leur héros du jour. La musique est lancée, le speaker chantera avec nous et à tue-tête, Emmène-moi de Charles Aznavour. Les supporters se souviendront longtemps de ce 11 avril 2015. Un mois plus tard, une fête sera bien entendu organisée par la section paloise et la ville, avec une parade dans la rue de Pau et une scène implantée place Clemenceau. Réviser le bac, ça attendra. D'abord, il faut fêter ça.
Du bout du monde, apportant avec des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on
vit. Mais vous chantez pas?
Que en off.
Oui, bah ça, oui, c'est catastrophique d'ailleurs. Fallait que ça arrive contre Montauban en plus.
Exactement, contre Montauban, tout à fait.
Mais c'était parce que c'était pas à Sapiac, c'est pour ça.
Ouais.
Et Boudiou.
Boudiou.
Non, mais c'est vrai, c'est un vrai souvenir parce que du coup, Pau maintenant est bien installé en top 14.
A fait un
très bon début de saison.
Explore.
Contrairement à Montauban.
Pardon ?
Contrairement à Montauban.
Pourquoi vous dites ça ?
C'est comme ça.
Montauban n'a pas les ambitions de remonter en top 14 pour l'instant. Ni l'équipe d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Les supporters, oui, ça c'est incroyable l'ambiance dans la cuvette. Mais non, pas l'effectif ni les ambitions, c'est comme ça, c'est pas grave. D'ailleurs, David Gérard, l'ancien entraîneur de Montauban. J'en profite pour vous enlever la lumière, Coraline.
Oui, pas de soucis, je m'hydrate.
Bah, hydratez-vous, c'est important. David Gérard, qui était l'ancien entraîneur de Montauban, est devenu sélectionneur de la Roumanie au rugby.
Comme quoi. Merci. Ça mène à tout.
Bon, voilà, que dire de plus. Je m'attendais pas à cette réaction.
Ça montre surtout la bonne, la réussite aussi qui a eu lieu pour cette Coupe du Monde.
Oui, il était avec le Portugal. Ouais.
Voilà.
Ah bah oui.
Le staff du Portugal, c'est bien que ça ait mis en lumière certaines
techniciens.
Ça s'appelle
une transition, Anne-Françoise.
Surtout que il a brillé dans sa mission, c'est-à-dire qu'il était quand même là en charge pour les combinaisons sur le jeu des avants et qu'il y a eu quand même de très belles touches et de très beaux lancements qui ont été proposés par les Portugais. Donc voilà, chapeau à lui. On espère qu'il fera de bonnes choses avec la Roumanie.
Voilà, dans quelques instants, on écoutera le coup de cœur d'Erwan, ce moment dans cette boîte à souvenirs. Peut-être que ça sera sur une petite équipe, peut-être pas. On verra ça avec lui juste après. Allez, on se remet dans l'ambiance de Noël. On retrouve un classique de la chanson de Noël. Voilà, on va tous l'avoir dans la tête. Super, on se retrouve juste après Maria Carré. Si Coralie nous a pas rendu sourds, à tout de suite.
All I want for
Et vous, Jonathan, votre souvenir?
Alors moi, vous le savez, j'adore les sports automobiles. Moi, les voitures qui font vroom vroom pendant 2 heures, j'aime bien ça. Ça berce, et puis les dimanches après les poules et frites, c'est généralement que des bons souvenirs. On retourne en septembre 2020, le 6, plus précisément, avec un moment historique dans le sport français. Alors, c'est pas très vieux, ça date d'il y a quelques instants. On aurait pu parler de France-Italie 2006 avec là des larmes sur le canapé. On aurait pu aussi parler de ce France-Argentine en 2018 où là, il y a eu beaucoup d'énervement. Il y a eu aussi ce France-Pays de Galles il y a quelques instants. Beaucoup de souvenirs dans le sport, évidemment, mais notamment un qui remémore des souvenirs. Anne-Françoise, vous avez l'habitude de dire « Ah, mais vous étiez pas né, vous étiez pas né. » Si je vous dis Olivier Panis, c'était il y a 26 ans, c'était la dernière victoire d'un Français en Formule 1 avant qu'il se passe ça.
Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire, il l'a fait. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis.
Voilà, c'était il y a quelques années maintenant, c'était il y a 4 ans même, puisque voilà, le temps filait presque. C'était Pierre Gasly qui signe sa première victoire en Formule 1 sur une voiture pas vraiment terrible. Hein, l'équipe AlphaTauri, elle n'est pas destinée à jouer les premières places. Et bien là, Pierre Gasly fait un coup de maître stratégique entre pénalité de ceux de devant et retard sur ceux de derrière. Et bien Pierre Gasly se tiendra debout sur sa voiture après sa victoire à Monza, le temple de la F1 de Ferrari. Là où on a l'habitude de voir les tifosi envahir la piste après une victoire des rouges, et bien là c'est Pierre Gasly qui remporte cette victoire, première victoire d'un Français donc depuis 96, et Olivier Panis ça remonte à il y a quelques temps. Et donc Corentin, Coraline, je parle sous votre contrôle, vous n'avez pas vécu de victoire française en Formule 1 depuis ce jour-là?
Eh bien,
il y a eu Esteban Ocon quand même.
Oui, non, mais depuis Pierre Gasly. Entre Pierre Gasly et Olivier Panis, il n'y a pas de victoire.
Non, y a pas
donc
eu
vous n'avez pas vécu de victoire.
Non.
Puisque Corentin, vous n'étiez pas né.
Oui.
Voilà. Coraline.
96, j'étais né.
Non, c'était juin 96.
Ah, donc, vous à deux pas mois né. Près.
Voilà. Vous n'étiez pas né. J'étais pas né non plus. Donc je n'ai pas connu une victoire en Formule 1, hormis les ralentis. Voilà. On n'a pas connu l'époque Prost. Éric Dupri nous avait fait une belle rétrospective sur celle de François Sever. On n'a pas connu tout ça, nous. Et donc là. Anne-Françoise,
oui,
vous l'avez connu, oui.
Oui.
Moi, oui. Anne-Françoise, vous l'avez connu en 96. Et donc, voilà, Pierre Gasly qui remporte cette première victoire, qui la donne à toute une génération. Et honnêtement, ça fout les poils. Voilà, d'entendre cet extrait de Julien Febro, on a parlé tout à l'heure avec Corentin des commentateurs et qui font vivre ces moments-là. Eh bien, moi, ce moment-là, eh bien, il y a les petites larmichettes. Voilà, j'avais le pull AlphaTauri en bon supporter des Français en F1. Voilà, j'ai acheté un pull à 70 euros, ça aussi, c'était un mauvais souvenir, on en parlera plus tard. Donc voilà, c'était le petit souvenir, le moment Madeleine de Proust avec cette victoire de Pierre Gasly. Et après, quelques mois après seulement, il y a eu Esteban Ocon qui a gagné en Hongrie avec une voiture française, avec une Alpine.
Cocorico. C'est
vrai. Voilà, là c'est double Cocorico.
Ouais.
Donc un Français sur une voiture française en Hongrie. Donc c'était pas arrivé depuis Pierre Gasly la dernière victoire. Donc là plutôt on est plutôt bien garni. Dans quelques instants nous allons retrouver la boîte à souvenirs d'Erwan, mais tout de suite celui de Corinne.
La boîte à souvenirs de Corinne.
Votre demande, Jonathan, consistait pour cette émission à trouver un souvenir sportif qui nous avait particulièrement marqué, et j'en ai eu. Mais il y a des exploits sportifs qui malheureusement ont été ternis par des questions de dopage, et si sur l'instant le moment est beau, il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Alors quel événement choisir ? Coupe du monde de foot, de rugby, Jeux olympiques ? Trop d'inspiration tue l'inspiration, direction ma bibliothèque, section sport pour me focaliser. Et là, mon regard s'arrête sur un objet que j'ai en exposition qui me vient de mon aïeul, une tabatière avec un décor peint grossièrement où est écrit Noël 1914. « Vous savez, ce Noël où pendant quelques heures, la guerre a été suspendue. Alors il ne s'agit pas d'un souvenir, mais de se souvenir. Lors de ce Noël 1914, un match de football à la frontière franco-belge en cette première année de guerre a permis aux hommes, à leurs ennemis, de se rapprocher. Pourtant, les soldats sont épuisés. En s'enterrant dans les tranchées, le soldat vit au quotidien avec la mort. C'est dans la ville belge d'Ypres, dans un no man's land qui sépare très légèrement les troupes britanniques des troupes allemandes, que la magie de Noël opère. Alors que les Britanniques surveillent la tranchée ennemie, comme chaque jour, ils aperçoivent divers sapins et décorations de Noël embellissant le paysage. Les Allemands entonnent des chants de Noël. Surpris par la situation de voir leur ennemi sous un nouveau jour, les Britanniques répondent aux Allemands en rejoignant leurs chants pour célébrer Noël. Un soldat allemand se dirige vers le No Man's Land, les bras levés en signe de paix, rejoint par un Allemand, puis par le reste des hommes des différentes tranchées afin de se souhaiter un joyeux Noël. Les ennemis communient, puis fraternisent afin de proposer une trêve jusqu'au Nouvel An pour se détendre, partager, mais aussi pour enterrer leurs morts. Ces symboles d'humanité uniques entre les deux camps prendra la forme par une union dans le sport. Pour faire un match de football, alors on ne sait pas vraiment à quoi a pu ressembler ce match. Les témoignages des hommes sur place disent qu'ils ont tapé le cuir ensemble le temps de cette trêve, pas plus. Cette rencontre improvisée fera même l'objet d'une brève dans le média britannique The Times, puisqu'un docteur britannique présent témoignera de la situation dans une lettre. Le journal du 1er janvier 1915 titre donc « Le régiment a eu un match de football contre les Saxons qui les ont battus 3-2 ». Une histoire qui a inspiré le film « Joyeux Noël » en 2005 de Christian Carion avec Danny Boone et Guillaume Canet.
Merci beaucoup Corinne, puisque la semaine prochaine dans Esprit Sport, dans l'émission qui aura lieu, on parlera cinéma et sport. Dans un instant, les deux derniers souvenirs de cette émission spéciale Boîte à souvenirs. On va retrouver Eric Dupri qui va nous parler d'un hommage, celui à François Sever. Et Erwan sera là pour clôturer cette dernière boîte à souvenirs à ouvrir dans cette émission. Mais tout de suite, on se remotive un peu avec Eyes of the Tiger. On va aller puncher la boîte à souvenirs juste après. We'll be right back.
prête à souvenir d'Éric.
Je ne sais pas si ça va dire grand-chose à mes camarades de la jeune génération qui sont autour de cette table, mais vendredi, enfin, c'était un triste anniversaire, les 50 ans de la mort de François Sever, lors des essais du Grand Prix de Watkins Glen, donc le 6 octobre 1973, certainement un des accidents les plus épouvantables de l'histoire de la Formule 1. Et il faut se rappeler ce qu'était François Sever à l'époque, c'était presque une rockstar, comme l'étaient d'ailleurs les pilotes de Formule 1. Ça a beaucoup changé, ça, aujourd'hui. Mais il était promis au plus bel avenir. On le voyait, le premier champion du monde français en 1974, c'était écrit. Il avait gagné son premier Grand Prix à Watkins Glen 2 ans plus tôt, en 1971. Il avait terminé 3e du championnat du monde. C'était Jackie Stewart, son coéquipier, qui était champion d'ailleurs cette année, 1971. En 1973, juste avant les essais, c'est le dernier Grand Prix de la saison. Stewart est déjà champion. Il a annoncé qu'il se retirait. Il allait courir son 100e Grand Prix. Et François Sever donc se tue pendant les essais en essayant d'aller chercher la pole position. Il prend un virage un peu trop vite, à 240 km/h, il sort et il finit dans les rails de sécurité. Enfin, ceux qui ont vu les images à l'époque, la voiture, c'était plus qu'un tas de ferraille. Son corps avait été atrocement mutilé. Même c'est Scheckter qui arrive le premier sur les lieux d'accident. Et il voit d'un côté le corps de François Sever, un peu plus loin son casque bleu. Vous imaginez ce qui a pu se passer. Voilà, ça avait beaucoup marqué le pays. Moi, j'étais un enfant à l'époque, mais je me rappelle quand même. Et je me rappelle aussi de ces obsèques. Il y avait un monde fou. Enfin, tout le monde était. Le pays entier était effondré de chagrin. Sever, c'était une icône. On l'appelait le petit prince. Toutes les jeunes femmes étaient amoureuses de lui. Il avait son poster dans la chambre parce qu'en plus, il était très beau. Il n'était pas du tout fait, a priori, pour faire de la Formule 1. Fils d'un joaillier de Neuilly, donc une famille très aisée. Il va faire de la course automobile contre l'avis de son père, alors que son père le destinait plutôt à une carrière de pianiste. Il a fait 15 ans de piano classique. Enfin, vous voyez, il avait été invité à l'émission Radioscopie de Jacques Chancel. Je pense même que c'est le seul sportif qui a dû être invité à cette émission. Et voilà, donc je voulais rendre hommage à ce grand pilote qui aurait dû être le premier champion du monde français. L'ironie de l'histoire, c'est que 12 ans plus tard, jour pour jour, Alain Prost serait le premier et unique à ce jour champion du monde français de Formule 1 le 6 octobre 1985. Et puis, petite anecdote, Jackie Stewart, c'était l'ami, le mentor de François Sever.
Très grand ami de François Sever.
Et depuis 50 ans, il fait fleurir la tombe de François Sever tous les 6 octobre à Voldenay, où a été enterré Sever,
la
commune
ensemble,
de naissance de sa mère.
Il faisait vraiment
voilà,
c'est,
voilà, donc rien que d'en parler, moi j'ai encore un petit peu les larmes aux yeux.
Bah c'est une vraie chronique, on a peut-être un témoignage à écouter, Eric.
Oui, c'est un extrait justement de cette émission Radioscopie. Jacques Chancel interroge François Sever et il lui parle justement de la mort que côtoient les pilotes de Formule 1. Malheureusement, à cette époque, ça arrivait très souvent.
Que se passe-t-il dans la tête d'un garçon qui, ainsi, en peu d'années, devient quelqu'un de célèbre, surtout lorsqu'il est très jeune?
Oh, moi, ça ne me fait rien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de courir, parce que j'aime vraiment ça, et de vivre de ça. Alors le reste, ça me...
On peut en vivre lorsqu'on a votre place.
On peut en vivre quand on a ma place. On peut perdre aussi beaucoup d'argent aussi.
Est-ce que vous pensez, François Sever, qu'on peut également en mourir?
Bien sûr, c'est le risque numéro un.
C'est un pari dangereux.
C'est pas un pari, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait parce que il y a deux solutions pour moi. Ou je cours en prenant le risque et je fais ce qui me plaît, ou je ne cours pas et je vis une vie qui ne m'intéresse pas du tout. Alors, ça ne me préoccupe pas du tout, j'y pense même pas. Le choix est fait au départ et puis la ligne est tracée.
Mais il a vécu de sa passion et il en
a... La ligne est tracée, cette phrase est terrible. Ça se termine là-dessus.
Voilà, Eric, dans un souvenir, boîte à souvenirs, on a dit qu'il n'y avait pas forcément que des bons souvenirs. Tout de suite, on retrouve le souvenir d'Erwan.
La boîte à souvenirs d'Erwan.
Erwan, vous nous parlez d'un souvenir de foot qui, au début, a très mal commencé et après, c'est plutôt bien terminé.
Oui, effectivement, je voulais parler donc de France-Ukraine, de la double confrontation qui avait eu lieu à la fin de l'année 2013. Maintenant, il y a plus de 10 ans maintenant, et oui, ça fait très loin. Effectivement, c'était un souvenir qui était au début très pénible et qui, au final, était féerique.
Un moment féerique qui me semble-t-il, à la fin du match, va nous amener au Brésil, c'est ça?
Oui, effectivement, à une Coupe du Monde 2014, alors qu'elle avait connu quelques problèmes dans l'organisation, notamment, voilà, où c'était pas forcément sur tous les points la meilleure Coupe du Monde de l'histoire, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de très beaux scénarios. Et ce France-Ukraine, du coup, il y a participé avant même le début de la Coupe du Monde. Voilà, il y avait aussi eu, il me semble, une confrontation entre Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo lors d'un autre éliminatoire européen. Mais si la plupart, on va dire, du monde footballistique se rappelle donc de ce match entre Ronaldo et Ibrahimovic, pour le coup, France-Ukraine, c'est vraiment ce qui a marqué, je pense, la France du football, notamment parce que, on peut le dire, c'est un peu le point d'ancrage, le début de la grande épopée des Bleus qui est encore en cours, je pense, on peut le dire aujourd'hui. De la grande ère Didier Deschamps
Oui, voilà, grâce
en tant que
à
sélectionneur.
Dédé.
Voilà, c'est le fameux Dédé. Merci à Dédé pour tout ce qu'il nous a apporté après et merci à Dédé pour ce match. Mais aussi, quand on parle de ce match, on est obligé de remercier une personne en particulier. On est obligé de dire merci à Mamadou Sakho parce que c'était vraiment le héros de la soirée. Avec un doublé, il avait fait chavirer vraiment les cœurs. Surtout qu'en plus, on se rappelle, c'était des buts qui n'étaient pas extrêmement
Ah
académique, hein.
ben
Le
oui,
deuxième
c'est
but, il me semble que c'est de l'intérieur de la cuisse avec un ballon qu'il voit pas du tout arriver. En fait, il dévie le ballon sans faire exprès. Et même encore maintenant, je crois qu'il y a des doutes, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment lui qui l'ait touché ou le genou d'un Ukrainien. Mais voilà, on dira que ce sera Mamadou Sakho parce qu'en plus, il marque donc au Stade de France. Mamadou Sakho, c'est l'enfant de Paris, formé au Paris Saint-Germain, qui était capitaine dès ses plus jeunes années professionnelles. Qui a vécu une histoire très triste et malheureusement une fin de carrière après un peu moins auréolé de succès, mais voilà, c'est vraiment l'héros d'une soirée et qu'il faut souligner.
Et parce que cette histoire, elle avait très mal commencé entre ce France-Ukraine, puisque la France a été battue 2-0, il me semble, en Ukraine.
C'est
Et
ça, exactement.
en plus de ça, 3-1 le match à la fin du match à Paris, et les Ukrainiens avaient marqué, et il fallait un scénario improbable. L'animal totem de Didier Deschamps, est-ce qu'on peut dire que l'animal totem de Didier Deschamps est entré sur la pelouse?
Alors oui, on peut dire ça, Olivier Giroud qui est rentré le fameux avant-centre préféré, je pense, de Didier Deschamps. Je pense que c'est pas fou de dire ça. C'est un pivot qui permet de bien contrôler le jeu, qui participe aussi à. On l'a vu pour la Coupe du Monde 2018, de toute façon. Olivier Giroud, voilà, il permet d'avoir une certaine mainmise sur le jeu. Puis il y avait aussi Bakary Sagna qui est rentré, qui permettait de verrouiller le côté droit, parce que c'était une époque où ça paraît peut-être fou à dire aujourd'hui, mais c'était une époque où on avait des vrais latéraux droits. Voilà, Bakary Sagna et Mathieu Dubuchy. Alors, c'était peut-être pas les
Là,
plus
c'est
grands footballeurs
des
de l'histoire.
noms, c'est des noms qui ont 10 ans et qu'on n'entend plus trop maintenant, hein.
Oui, c'est sûr, mais au moins c'était des mecs qui jouaient à ce poste. C'était pas des défenseurs centraux qu'on avait ramenés sur un côté parce qu'on n'avait vraiment personne. C'était peut-être même les derniers avec Sidibé, les derniers vrais latéraux droits de l'histoire de l'équipe de France. Alors comme je dis, c'était effectivement, on n'est pas sur des Achraf Hakimi ou des Lam, mais on est quand même sur des joueurs qui avaient un petit niveau et qui avait su prouver, surtout pour Bakary Sagna, voilà, qui avait fait une très très belle carrière en Angleterre. Et puis comme vous le dites, Jonathan, effectivement, ce match aller en Ukraine 2-0 où la France avait été totalement absente, où en plus Koscielny, qui était un peu aussi à l'époque l'animal totem de Didier Deschamps en défense centrale, avait pris un rouge à la dernière minute de temps additionnel. Alors comme un Ukrainien, parce que ces matchs, franchement, c'était, alors on s'en rappelle pour le beau scénario. C'était vraiment une boucherie aussi à côté. Il y a eu énormément de cartons, et notamment sur les deux matchs, il y a trois cartons rouges quand même. Donc, ce Koscielny qui n'avait pas pu prétendre au match retour, et qui donc avait vu Varane et Sakho justement, du coup, intégrer la charnière centrale, avec Sakho qui a eu du coup le destin absolument magnifique que je disais juste avant. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de très beau. Et sur le fameux but, oui, du 3-1, alors le but
3-0,
ukrainien avait
j'ai dit
été
une bêtise,
refusé pour
3-0 à
hors-jeu.
la fin du match, j'ai dit une bêtise.
Ouais, non, non, mais parce que vous vous en rappelez bien, parce que le but ukrainien avait été refusé pour hors-jeu, alors qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas le VAR, hein. Il avait été refusé pour hors-jeu, alors qu'on n'était pas vraiment sûr qu'il y avait hors-jeu, d'ailleurs, en regardant après sur les images. Sauf que le truc, c'était qu'il y avait eu deux buts français qui avaient été refusés pour hors-jeu avant, il me semble, de Karim Benzema, ou de un de Karim Benzema et un de Franck Ribéry. Là, c'est vraiment sur les souvenirs d'il y a 10 ans, hein, que je fais. Mais il me semble que du coup, il y avait eu deux buts qui avaient été refusés, au moins un de Karim Benzema, ça c'est sûr, pour hors-jeu, alors qu'il n'était pas du tout hors-jeu sur les deux buts. Et du coup, ça avait même créé l'hystérie des commentateurs qui ne savaient plus où donner de la tête. Ils disaient, mais est-ce qu'on va vraiment ne pas aller à la Coupe du Monde parce que on a eu des buts refusés pour hors-jeu? Et au final, il me semble qu'il y a vaguement peut-être du coup, un hors-jeu soit sur le deuxième but de Sakho, soit sur le but de Benzema, donc à la 34e minute. Et puis que là, du coup, on s'est dit, bon, c'est un peu l'histoire, le karma qui nous redonne une chance, parce que certes, sur un des buts, il y a hors-jeu, mais on a eu quand même deux buts côté français annulés pour des occasions de hors-jeu qui n'existaient pas. De la même manière, comme je dis, c'était pas un match avec un football incroyable, mais c'était un match avec des émotions incroyables. Et moi, je pense personnellement que c'est le match de football qui m'a le plus marqué dans ma vie, même au-delà de la finale de la Coupe du Monde 2018, qui arrive sûrement juste derrière, et après avec la finale de la Coupe du Monde 2022. Mais voilà, c'est un match qui restera jamais dans les mémoires de ceux qui ont connu et qui ont connu cette époque, je pense.
Est-ce que vous vous souvenez de où vous étiez ce 19 novembre 2013?
Alors oui, je me rappelle exactement. Je me rappelle même d'un fait assez rigolo, c'est que en fait j'étais tout seul sur mon canapé parce que je suis pas issu d'une famille proche, mes parents ne sont pas du tout fans de foot ou quoi, etc.
Plutôt rugby peut-être.
Du coup, plutôt rugby, oui, surtout mon père, mais voilà, du coup je l'ai regardé un peu tout seul sur la télé du salon parce que j'étais un grand garçon, je pouvais regarder les émissions tard le soir.
Ah ouais, vous aviez le droit à regarder plus que la première mi-temps.
Ah oui, non, mais j'étais quand même assez âgé pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que c'était un peu, il y avait un peu ce côté-là où en fait je pouvais suivre l'aventure de l'équipe de France pour la première fois du début à la fin en totalité. Alors j'ai de très très bons souvenirs de, enfin je me rappelle quand même assez bien de la Coupe du Monde 2010. À la Coupe du Monde 2006, j'en ai des bribes, mais vraiment c'est très flou. La Coupe du Monde 2014, c'est la première que j'ai pu, on va dire, profiter en son intégralité en comprenant tous les enjeux, que ce soit des éliminatoires jusqu'à la finale. Et oui, du coup, je me rappelle que j'étais sur mon canapé. Et anecdote rigolote, je me souviens m'être fait très mal au moment du deuxième but de Sakho, parce que j'ai levé les bras et je me suis cogné contre mon étagère. Et vraiment, j'ai pris le coin entre deux phalanges. Et je me rappelle avoir eu très mal, mais être très content sur le moment.
Ah bah dites donc, il y a une cicatrice de ce match-là, quoi.
Oh, une cicatrice, on va quand même peut-être pas aller jusque-là, mais on va dire que si peut-être que j'ai la main gauche, peut-être un peu de traviole maintenant à cause de ça. Mais bon, j'essaie de pas trop regarder pour pas vérifier.
Voilà, donc vous faisiez partie de tous ces Français devant la télé qui n'ont pas eu la chance comme les 77 000 spectateurs au Stade de France en ce 19 novembre 2013. En tout cas, voilà, vous vous en souvenez, vous nous l'avez partagé dans cette boîte à souvenirs. Et plus tard, on verra que eh bien, les Bleus se sont fait éliminer face à l'Allemagne en quart de finale de cette Coupe du Monde 2014. Voilà, ce match, on s'en souvient et on s'en souviendra encore pour longtemps, vous pensez?
Je pense que ceux qui vont s'en souvenir, c'est ceux qui l'ont vu. Je pense que par exemple des personnes comme Warren Zaïre-Emery, par exemple, qui sont nés en...
Oui, non,
en
je crois 2006, qu'il n'était pas né, lui.
ne vont peut-être pas s'en souvenir parce qu'ils avaient 7 ans, donc forcément c'est quand même relativement compliqué. C'est pas un match qui va forcément rentrer dans les histoires, surtout dans l'histoire, dans les grandes lignes de l'histoire plutôt, même s'il faut être précis. Déjà parce qu'on peut voir déjà l'intérêt des gens à ce moment-là pour l'équipe de France, c'est quand même faible. Il faut quand même se dire que c'était un match qui décidait si on allait à la Coupe du Monde ou pas. Comme vous l'avez mentionné, 77 000 personnes, ça veut dire que le Stade de France n'était pas plein et était quand même loin d'être plein parce que voilà, il manque quelques milliers de spectateurs. Donc ça montre un peu l'intérêt qu'il y avait à cette époque-là pour le football, avec une équipe de France qui était en perte de vitesse.
Et petite info,
ceux qui l'ont vu et ceux qui ont commencé, parce que moi je pense que c'est ce match qui a fait que je me suis vraiment intéressé au football personnellement. Je pense que ceux qui l'ont vu et ceux qui ont pris conscience du scénario et du résultat s'en souviendront, mais... Bon, je ne miserai pas sur le fait que mes enfants sauront l'existence de ce match.
Plusieurs petites anecdotes, plusieurs petits chiffres pour terminer cette boîte à souvenirs, ce souvenir. Selon l'équipe, on n'a jamais entendu le Stade de France faire autant de bruit que lors de ce match. Deuxième statistique, selon un sondage effectué par France Football avant l'Euro 2016, France Football indique que ce match France-Ukraine est le quatrième match de l'histoire de l'équipe de France qui a donné le plus de frissons à ses supporters après la finale 98 et après la finale de l'Euro 2000 et juste après aussi la nuit de Séville en 1982. Voilà, donc c'est le quatrième match qui a fait le plus frissonner les supporters. Et dernière petite anecdote, en 2013, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 10 ans Erwan, vous qui êtes fan des petites équipes, je vous rappelle que Evian Tonon-Gaillard avait gagné 2-0 face au PSG.
Le grand PSG. Leur maillot rose, je crois.
Effectivement, etc. Avec leur montagne, et le PSG qui avait déjà quelques stars hein, dans l'équipe. Donc,
donc voilà. C'était le début, oui. Là.
C'était le début, effectivement. Et les petites équipes que vous affectionnez tant maintenant, Erwan, eh bien, Evian Tonon-Gaillard avait battu le PSG.
Déjà fou de se dire que Evian Tonon-Gaillard était en Ligue 1.
Oui, maintenant je crois que le club a disparu, donc c'est dire à quel point c'est compliqué.
Le Gazélec Ajaccio n'est pas non plus très loin d'avoir disparu, en tout cas il est tombé dans les...
À cette époque-là, il y avait déjà Sirigu, Marquinhos, Thiago Silva, Verratti, Matuidi, Zlatan, Cavani, et cette équipe-là était entraînée par Laurent Blanc et a perdu 2-0 face à Evian Tonon-Gaillard. Voilà, c'était le petit clin d'œil de cette année 2013, Erwan.
Il me semble... Ah non, quoique, il y avait Yohan Cabaye, il n'était pas encore au PSG, mais voilà, il y avait Matuidi. Du PSG qui était justement sur la feuille de match de ce France-Ukraine.
Et bien voilà, merci beaucoup Erwan pour cette boîte à souvenirs.
Ben merci à vous Jonathan.
C'est déjà terminé pour cette émission de toute fin d'année, mais c'est pas terminé, puisque avant de se retrouver en janvier, il y en a encore une qui va arriver. Une qui va arriver la semaine prochaine. Ça sera la 19e ou 20e émission d'Esprit Sport. On parlera cinéma et sport. Vous allez voir les chariots de feu. C'est une très belle émission, on va parler Invictus, on va parler de cinéma et du sport. Est-ce que c'est un bon mélange? On va aussi retrouver des musiques célèbres dans ces films-là et qui nous donnent envie d'aller faire du sport. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même radio, pour retrouver Eric qui sera avec nous et Louis-Marie Solaire, un spécialiste cinéma et qui lui apportera son œil sur ces films à voir sur le sport ou non. Voilà, on retrouvera donc cette sélection de cinéma en cette toute dernière émission de l'année. Merci d'avoir été avec nous et donc à la semaine prochaine. We'll be right back.